est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
C'est l'usinage du moteur de la Dauphine Renault.
Bonjour à tous. Symbole d'une Europe qui se désindustrialise, on parle aujourd'hui de patrimoine ouvrier. Témoin d'une France qui produit sur son sol 3 fois moins de voitures qu'il y a 30 ans, l'île Seguin, c'est là que s'étaient installées en 1919 les fameuses usines Renault. Imaginez des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs sur la Seine aux portes de Paris, à Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments industriels ont été abandonnés puis rasés. Et les projets ne manquent pas. Visite avec Juliette Rangeval.
Un restaurant de sushi, une boulangerie bio, une agence bancaire et un lycée tout neuf qui fait cette année sa 2e rentrée. La place nationale aujourd'hui, Jules Guesde, à Boulogne-Billancourt, bourdonne d'activité. Mais c'est un tout autre paysage qui s'anime quand Areski Amazouz parle de cet endroit. Cet ancien ouvrier de Renault s'investit aujourd'hui dans l'association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt et de l'île Seguin.
C'est la Mecque des Renault ici, là. Là, c'est la Mecque des Renault. Dans la tête de tous ceux qui ont travaillé chez Renault, c'est la place nationale. Ici, il y a une des grandes entrées de Renault. Le Porsche, c'était les camions et derrière, il y a la douane. Aujourd'hui, c'est un lycée. On a préservé la façade. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce lycée porte le nom de Renault-Billancourt. Et puis bon, cette place, beaucoup de monde pense que c'est plutôt une place internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même 51 nationalités qui ont travaillé, qui se sont côtoyées, même quand ils ne parlaient pas la même langue, mais elles se comprenaient très bien et tissaient des liens d'amitié, de fraternité, de solidarité.
Travailleurs russes après la révolution de 17, chinois dans l'entre-deux-guerres, algériens ensuite, le monde entier a travaillé pour le constructeur automobile. Yves Dubreuil, le papa de la Twingo, se souvient lui aussi de l'ambiance particulière de la place et de ses petits cafés.
Quand j'entrais, j'allais prendre un café à un des cafés de la place nationale. Si on ne précisait pas sans Calvin, c'était le café avec Calvin. Hein. Alors, les mecs allaient bosser dans des conditions dangereuses comme les forges fonderies, peut-être pas terrible, qu'on dirait maintenant.
Renault, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une ville dans la ville.
À l'époque, les ouvriers de Renault étaient payés 2 fois par mois en liquide. Il y avait donc 30 ou 40 000 personnes qui étaient payées en liquide tous les 15 jours. Il y avait des pointeaux qui allaient chercher les frics, une enveloppe par personne, et qui allaient distribuer ça partout. Il n'y a jamais eu de vol. Jamais. Là, c'est la CGT qui veillait. Il y a eu un type qui s'attaquait à un pointeau, à mon avis, il terminait mal la soirée. Mais, tous les midis, les jours de paye, il y avait tous les camelots de la terre qui affluaient sur la place nationale, couvant tout et rien, pour essayer de piquer un peu des sous qui étaient dans la poche des gars.
On peut acheter des montres, on peut acheter des chaussettes. On peut acheter des chapeaux, on peut acheter plein de choses, femmes, hommes, les enfants. Et y compris même faire ses courses, donc des fruits et légumes. Il y avait des cafés, la place de la boulangerie, c'était le coteau de la Loire, c'était le rendez-vous de la section du Parti communiste. Là, tous les matins, c'est là-bas qu'ils buvaient le café. Et puis bon, dans tout le quartier, il y avait plein de petits restaurants, de petits commerçants. Et il y avait un chanteur algérien qui tenait un restaurant là derrière, qui s'appelait, alors je vais le dire avec l'accent, hein, Mohan Said Oubleid, qui chantait la quinzaine de Renault.
La place, c'est aussi le lieu des rassemblements politiques et syndicaux, comme le rappelle Areski Amazouz.
Moi, ce que j'ai connu, c'était les grands meetings. Alors Mitterrand est venu jusqu'ici pour la campagne électorale, mais aussi Georges Marchais est venu, Jospin, ils sont tous venus jusqu'ici faire de la politique. Mais aussi, dans les moments des mouvements sociaux, ici sur cette place-là, on dressait une grande estrade. Et on faisait venir des chanteurs. On a fait venir, par exemple, Isabelle Aubray, Léni Esquiduro, Jean Ferrat et Georges Moustaki.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais.
L'ensemble industriel est tellement important que l'on dit alors que quand Renault tousse, c'est la France qui s'enrhume. En mai 68, au moment des accords de Grenelle, c'est devant les ouvriers de Renault à Billancourt que se rend le secrétaire général de la CGT, comme le rappelle Yves Dubreuil.
L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de Flins.
En 68, quand Hercheilly a été à Matignon, il termine par une espèce d'accord, enfin, il dit « je vais demander l'avis à la France ». Il vient voir la France à Billancourt, sur l'esplanade de l'île Seguin.
Georges Segui recevra un accueil mitigé des 20 000 ouvriers rassemblés ce jour-là sur l'île Seguin. Parmi eux, Roger Sylvain, le leader de la CGT dans l'usine.
On avait travaillé pour le préparer sans savoir que ça partirait comme ça, comme toujours. Et puis ça a été une expérience pour nous, militants syndicaux, à l'époque. On n'avait jamais vécu ça, il a fallu faire face. Hein, occuper une usine qui, à l'époque, combien il y avait de portes? Je crois que j'avais compté, il y avait 19 portes pour rentrer chez Renault. Hein, dire demain matin, on bloque. T'as pas d'expérience, tu fais ton expérience.
Roger Sylvain, c'est l'une des mémoires de Billancourt. Entré à 15 ans chez Renault, il y a fait toute sa carrière, forgée dans le climat très particulier de cette forteresse ouvrière.
Billancourt, c'était exceptionnel. Par exemple, moi, j'ai été formé, syndicalement parlant, même politiquement, par des copains qui avaient fait 36, mais surtout la résistance.
L'île Seguin et ses chaînes de montage automobile marquent les ouvriers et les ingénieurs aussi. Michel Auroy a été directeur du centre de Billancourt, secrétaire général adjoint de Renault. Il est aujourd'hui l'un des gardiens du patrimoine du constructeur à travers l'association Amétis.
Pour moi, j'ai vécu quand même une bonne partie de ma carrière dans l'île Seguin. Donc le lieu le plus mythique, c'est quand même ce qu'on appelait l'esplanade de l'île Seguin. Là où les chaînes débouchaient avec des voitures qui sortaient d'une manière régulière. Puis là aussi quand même, certains rassemblements de type sociaux qui m'ont marqué. 68 m'a marqué. J'avais 27 ans, je me suis retrouvé un jour hors de l'usine sans comprendre pourquoi. Je ne connaissais rien en matière de social. Donc un grand meeting de reprise après les accords de Grenelle sur l'île Seguin, c'est des choses qui restent. Donc aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain, c'est l'île Seguin.
Aujourd'hui, l'île Seguin accueille une salle de spectacle ultra moderne, des projets de parcs, de bureaux, de galeries qui devraient bientôt sortir de terre. Il ne reste presque plus rien des bâtiments industriels. Seule demeure la belle architecture du pont d'Aïdé qui relie l'île à Billancourt. Tout le reste a été revendu, reconstruit. Renault a conservé 12 000 m² seulement du site de Billancourt. Les associations d'anciens espèrent qu'ils pourront continuer à faire vivre la mémoire de ce site exceptionnel à travers des salles de conférences ou des lieux de formation. Et en Pologne, à Varsovie, c'est une ancienne fabrique de vodka qui a été entièrement reconvertie en campus Google, galerie commerciale, bureau, hôtel et en musée de la vodka polonaise. À Varsovie, Thomas Giraudot.
Les Polonais connaissent tous la Weborowa, une célèbre marque de vodka, mais peu d'entre eux savent qu'elle a été créée à Varsovie, à l'est de la ville, précisément dans la fabrique Connaisseur. Cette usine a été bâtie à la toute fin du 19e siècle par l'Empire russe. Il occupait à l'époque l'est de la Pologne, dont Varsovie. Elle a fonctionné jusque dans les années 2000, passant de main en main au gré de l'histoire du pays, des Polonais aux nazis, puis à l'État communiste, avant d'être privatisée. L'usine ferme en 2008, faute d'investissement, comme beaucoup de distilleries polonaises. Mais un cabinet de promoteurs immobiliers rachète cette dizaine de bâtiments et dépense environ 100 millions d'euros pour transformer entièrement le complexe. Les façades de briques rouges sont protégées par le patrimoine historique, elles sont donc conservées. Mais l'intérieur des bâtiments est remodelé, aujourd'hui seule une cheminée rappelle l'histoire du lieu, et en dessous de celle-ci, le premier musée de la vodka polonaise. Connaisseur abrite aussi un hôtel haut de gamme, quelques commerces, des bureaux et un campus Google, un incubateur pour de jeunes entreprises. C'est aussi un lieu de sortie et d'événements, marchés, concerts branchés, à l'image du quartier qui l'entoure, Praga, populaire, voire même malfamé il y a encore 10 ans, sans bourgeoise, au point qu'il est aujourd'hui devenu le quartier de Varsovie où les prix de l'immobilier augmentent le plus.
Et à Berlin, le patrimoine ouvrier est encore bien vivant sous la forme de jardins potagers. Ces jardins ouvriers que l'on cultive au cœur même de la capitale allemande depuis 150 ans, des oasis de verdure qui occupent encore 3% de la surface totale de la ville, mais pour combien de temps encore? Car la population est en pleine croissance et la pression immobilière est intense, mais les jardiniers des villes s'organisent pour défendre leurs petits lopins de terre. Reportage signé Julien Méchossi.
Thorsten croque à pleines dents dans une tomate qu'il vient de cueillir dans son jardin. Une vraie tomate, juteuse et avec du goût de couleur verte, bien loin de celle que l'on trouve dans les supermarchés. l'annonce faite par le Sénat berlinois de vouloir raser en partie ou entièrement une quarantaine de Kleingartenkolonien, des colonies de jardins d'ici 2030, concerne également Thorsten. Sur les 180 jardins de la colonie Bornholm-Herzweil, dans le nord de Berlin, une vingtaine pourrait laisser la place à un nouveau gymnase.
Ce serait très triste pour ceux qui perdraient leur jardin, mais en fin de compte, ce serait insignifiant comparé à ce que perdrait cette ville si nous devions partir. Au-delà de l'aspect social, nous contribuons également à la protection du climat. Il fait toujours 3 à 4 degrés de moins ici que dans le reste de la ville. Il faut revenir à la raison et sauvegarder cette oasis de verdure urbaine face à l'appétit des investisseurs.
La colonie Bornholm-Herzweil célèbre ce dimanche sa fête des récoltes.
Nous avons des potirons, des fines herbes, du romarin, de la sauge. Il y a aussi des noix, des raisins et j'en passe. Tout ça a poussé et a été récolté ici. Je suis d'avis que si on a un jardin, il faut planter des fruits et des légumes.
Ingrid propose des produits de la récolte des jardins en échange d'un petit don. Si elle ne souhaite pas révéler son âge, par coquetterie, elle donne cependant un indice. C'est ici qu'elle a rencontré son mari en 1956.
C'est mon îlot de repos, de calme. Je viens ici au moins une fois par jour. Mon jardin est tout pour moi. Et puis, on me dit souvent que j'ai un très joli jardin.
Pendant ce temps, Thorsten continue de transpirer et d'enlever les mauvaises herbes entre ses pieds de lavande. Avec son appartement situé à 5 minutes en vélo, il occupe ce jardin depuis une petite dizaine d'années, pour le plus grand bonheur de ses enfants bien sûr, mais pas seulement.
Grâce au jardinage, grâce à cet environnement verdoyant, les gens se rencontrent, ils échangent. Les anciennes et jeunes générations se rapprochent. L'ancien Berlin-Est et l'ancien Berlin-Ouest se retrouvent aussi ici. Tout ce travail en commun crée du lien social et c'est primordial d'entretenir ça dans notre société actuelle, avec toutes les difficultés inhérentes, mais aussi les possibilités que cela offre.
Attablé avec des jardiniers de plusieurs générations, Wolf s'occupe de l'organisation d'événements culturels au sein de la colonie, comme tous les jeudis soirs avec des concerts gratuits en plein air. Car au-delà du calme et de la verdure, ces jardins ouvriers sont devenus au fil du temps un lieu de rencontre.
Nous faisons tout pour favoriser le lien social. Cet endroit est bien plus qu'un simple îlot de verdure au milieu du béton où les enfants peuvent venir jouer. Les plus jeunes apprennent ici le jardinage, profitent du savoir des anciens et ça marche. Nous avons par exemple un groupe de jeunes jardiniers en collaboration avec l'école voisine. Beaucoup de gens du voisinage viennent aussi à notre rencontre. Les gens se mélangent ici.
Jour de fête oblige, Roman, pantalon rouge rubis et chemise bariolée, propose une visite guidée des jardins. Une quinzaine de personnes venues en voisin, mais aussi Margaret, originaire d'Islande, qui a récemment pu obtenir un jardin malgré les longues listes d'attente.
Cet endroit rend à mes yeux la vie en ville parfaite. J'adore vivre à Berlin, pouvoir profiter de l'incroyable offre culturelle, mais jusqu'ici la verdure me manquait. Alors que maintenant, avec notre jardin, nous avons trouvé l'équilibre idéal. C'est tout simplement merveilleux.
Thorsten, Ingrid, Wolf et Margaret sont prêts à se battre pour ne pas perdre leur petit paradis, comme près de 40 autres colonies menacées. Mais pour l'instant, le Sénat berlinois n'en démord pas. À partir de 2030, il souhaite y construire des infrastructures publiques ainsi que 7000 logements.
Une mine de la vallée du Jiu, à l'ouest de la Roumanie, reconnue patrimoine industriel national. Ce n'est que justice, tant les gueules noires ont été depuis un siècle le fer de lance de la contestation sociale et politique dans le pays. Quand les mineurs marchaient sur Bucarest, le pouvoir tremblait. Aujourd'hui, l'ancienne mine de Petrila a cessé ses activités, mais un artiste a tout fait pour conserver la mémoire des lieux. À Bucarest, Benjamin Ribou.
La mine de charbon de Petrila, dans la vallée du Jiu, aurait pu tomber dans l'oubli. Située dans le centre-ouest de la Roumanie, elle a dû fermer en 2015 après 156 ans d'activité. Non rentable et délaissée par l'État, l'industrie minière roumaine s'éteint à petit feu un peu partout dans le pays depuis 30 ans. Mais les habitants de Petrila se sont battus pour faire quelque chose de ce patrimoine. Dès 2012, et en plein déclin, une association menée par un artiste local impulse sans trop de moyens un mouvement de reconversion conversion du site minier. C'est le début du phénomène Planeta Petrila, une initiative militante, culturelle et un peu surréaliste. Apparaissent ainsi un musée du sauveur mineur et une exploitation culturelle Petrila. On y met en valeur le matériel utilisé du temps de la mine et on y joue des pièces de théâtre et des concerts. On y inaugure aussi un centre culturel Pompadour dans l'ancienne salle des pompes de la mine, reconverti en espace d'exposition pour sculpteurs et peintres. Le lieu attire lors de chaque événement des centaines de personnes, locaux, mais aussi d'autres villes. La communauté retrouve sa fierté et les autorités approuvent peu à peu la démarche. Conséquence, le site est classé monument historique et échappe à la destruction. Un plan de reconversion en espace culturel a également été approuvé. La renaissance de Petrila, portée à l'écran dans un documentaire à succès, a semble-t-il fait des émules puisque d'autres villes roumaines en déclin s'en inspirent déjà.
Et pour notre chronique, nous n'allons pas parler de classe ouvrière, mais d'inégalité en Europe avec Eve Minot. Bonjour Eve.
Bonjour Frédéric.
Ces inégalités sont-elles en train de se creuser en Europe? En d'autres termes, les riches européens deviennent-ils encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres? Il semblerait qu'aujourd'hui, en tout cas, la notion d'inégalité soit de plus en plus utilisée par les économistes qui dénoncent un capitalisme fonctionnant à deux vitesses.
Au détriment des plus nombreux d'entre nous, oui. C'est en tout cas ce que fait le français Thomas Piketty, qui publie quelques années après son best-seller, Le Capital au XXIe siècle, un nouvel ouvrage, Capitalisme et idéologie, une histoire mondiale des inégalités et des théories économiques et politiques destinées à les justifier. Ce livre s'ajoute à de nombreux ouvrages récents publiés en Europe et aux États-Unis et qui dressent tous le même portrait de nos systèmes économiques qui enrichissent moins de 1% de la population au détriment de tous les autres. Une idée qui était déjà, souvenez-vous, au cœur des manifestations du mouvement Occupy Wall Street et de ses slogans en 2001, nous sommes les 99%.
Alors, au-delà du phénomène de librairie, Eve, que disent les chiffres?
Eh bien, les chiffres semblent plutôt confirmer cette analyse. Début 2019, le Laboratoire mondial des inégalités, dont fait partie M. Piketty, a livré une étude statistique sur le malaise des classes moyennes constatées partout en Europe, de l'Italie à la Grande-Bretagne avec le Brexit par exemple, ou en passant par la France et le mouvement des Gilets jaunes. Résultat, les écarts de richesse ont bien explosé. Entre 1980 et 2017, les 1% les plus riches en Europe ont vu leurs revenus croître deux fois plus vite que celui des 50% les plus pauvres.
Et ces revenus, justement, comment ont-ils évolué?
Alors cette fois-ci, c'est du côté des rapports de la Banque mondiale qu'il faut aller chercher des réponses. Selon cette institution, aucun pays n'a échappé à la tendance, même si les chiffres ne sont pas les mêmes aux quatre coins de l'Europe. Comme souvent, c'est au nord que l'on trouve le moins d'inégalités, et cela avant comme après impôt. Tandis qu'en Europe de l'Ouest, la part du revenu national captée par les plus riches est la plus élevée, notamment en Allemagne, où le phénomène s'est aggravé entre 2003 et 2008. Mais dans ces pays, le système fiscal et les transferts sociaux permettent un petit peu de réinjecter de l'égalité, contrairement aux pays d'Europe du Sud ou de l'Est qui ont des systèmes de redistribution moins égalitaires et donc génèrent plus d'inégalités à la fin du mois.
Oui, à l'Est d'ailleurs, l'Observatoire parle carrément de flambée des inégalités.
Il semblerait que sur ces 40 dernières années, les plus pauvres n'aient pas vraiment profité de la croissance importante qui a accompagné pourtant la transition de l'ancien bloc de l'Est du socialisme au capitalisme. En plus, ces capitaux qui ont afflué en masse ont enrichi finalement une petite élite. Ainsi, l'augmentation des inégalités de revenus se constate au sein des pays européens, mais aussi entre les différentes régions européennes, ce qui entretient la concurrence fiscale entre les pays et donc l'augmentation, là encore, des inégalités. C'est un peu un cercle vicieux, Frédéric. En 2017, par exemple, le revenu national moyen par adulte et par an était de environ 19 000 euros à l'Est, 28 000 au Sud, 38 000 à l'Ouest et 46 000 au Nord. Alors, maigre consolation, hein, selon cette étude, les Européens ne s'en sortent finalement pas si mal par rapport à leurs cousins américains et notamment grâce au système de protection sociaux mis en place dans nos pays.
Et pour ceux qui veulent estimer leur propre fortune sur l'échelle des plus pauvres ou des plus riches, une adresse wid.world. Merci Eve Minot.
Au revoir Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.